Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounel. Bonjour à tous, je reçois de nouveau André Gounel pour Thème et Anathème. Et le sujet que nous avons entamé la dernière fois est la scène communion ou division. La dernière fois, nous avons vu la position de l'Église catholique qui suivait donc la position de l'Église primitive qui voit dans le pain et le vin les vrais corps et sang de Jésus. C'est la transsubstantation. Là, on est en plein dans le sacré, c'est-à-dire le recours à une forme de positionnement magique, si on peut dire. Vous pouvez donc détailler ce que c'est.
Bon, je fais un peu de remarques préliminaires. Quand on se plonge dans les temps de la Réformation, 16e, 17e siècle, on s'aperçoit que la scène ou Eucharistie est le sujet majeur de discorde. Quand aujourd'hui on parle de la Réformation, on insiste souvent sur la justification par grâce, c'est juste, sur l'autorité de la Bible, c'est juste, mais si on regarde la littérature, par exemple, de controverses du XVIIe siècle, 95 à 98% de la littérature porte sur la présence réelle, porte sur la transsubstantiation. Ça a été le thème majeur, d'où le titre communion ou division.
Oui.
Ce que nous appelons la communion a été une raison majeure de division dans la chrétienté. Alors division entre catholiques et protestants, mais aussi division entre protestants. Et entre les luthériens et les réformés, ça a été extrêmement violent. Par exemple, en 1529, colloque de Marbourg, c'est les tout débuts de la Réforme, et le prince Philippe de Hesse réunit à Marbourg Luther, Zwingli, Colampad, Bucer et quelques autres réformateurs pour se mettre d'accord. Ici, il y a un texte en 15 points. Sur 14, il y a un accord complet. Et sur le 15e, exactement sur la seconde partie du 15e, il y a un désaccord total. Et cette seconde partie, c'est le mode de présence du Christ dans le sacrement.
Alors, il faut rappeler donc quel est le mode de présence du Christ dans le sacrement, voilà, selon l'Église catholique.
Alors, c'est à tel point que Luther refuse de serrer la main à Zwingli à la fin.
Oui.
Et que, à la fin du 16e siècle, il y a un pasteur luthérien de Hambourg qui écrit un traité en disant « Si par le plus grand des malheurs, le diable emporté, et qu'on soit obligé de choisir entre Rome et Genève, nous choisirions Rome. »
Oui, d'accord.
Contre Genève.
Oui.
C'est donc division intra-protestante.
Oui.
Pas seulement entre protestants et catholiques. Alors, la question du mode de présence, la transsubstantiation, ça veut dire que l'hostie consacrée, le pain consacré, devient entièrement corps du Christ, qu'il a perdu sa substance,
oui,
et qu'il a pris une autre substance.
Il n'est plus du pain.
C'est plus du pain. Et de même pour la coupe. La consubstantiation de Luther, Luther est resté sur ce point-là assez proche du catholicisme,
oui,
probablement plus proche, effectivement, de Rome que de Zurich.
Oui, oui, puisqu'il voit la présence du Christ.
Il voit la
Christ.
Présence, il dit c'est avec, comme,
oui,
consubstantiation.
C'est donc
comme
la consubstantiation.
C'est-à-dire, le pain est à la fois du pain et le corps du Christ. Il est pendant la cérémonie, c'est-à-dire pendant que le pain et le vin sont accompagnés par la parole. Quand la parole s'arrête, le pain n'est plus que du pain. Et le vin n'est plus que du vin. C'est donc qu'il y a une transformation matérielle,
oui,
mais provisoire.
Oui, mais effectivement, c'est très proche quand même de la position catholique.
C'est extrêmement proche.
Puisque le Christ
pour,
descend...
Alors, pour Zwingli...
Alors, Zwingli, on rappelle donc...
Le Christ, c'est le réformateur de...
De Zurich.
C'est le père du courant réformé, réformateur de Zurich. Il est contemporain. Il a 2 ans de plus ou de moins, je ne sais plus exactement, que Luther. Ils sont vraiment,
ouais,
contemporains. Pour Zwingli, Le Christ est présent, non pas matériellement, mais il est présent par son esprit, exactement par le Saint-Esprit. Il est présent dans l'âme, le cœur, la vie du croyant, indépendamment du sacrement, avant que le sacrement ait été donné. Et le sens du sacrement, le sens de la scène, c'est de témoigner de cette présence, de la signaler aux autres, de dire « pour moi, j'ai reçu le Christ ». Le Christ est présent dans ma vie et j'en rends témoignage. On prend la scène, disait Ecole Ampad, le réformateur de Bâle, qui est un proche de Zwingli, on prend la scène pas pour soi, on la prend pour les autres.
Oui, là vous êtes sur la position de Zwingli, je voudrais qu'on revienne quand même un petit peu en arrière. Parce qu'on voit où sont vos sympathies.
Oui, ça, c'est tout à fait, je ne les cache pas.
C'est tout à fait évident. Mais je voudrais, pour nos auditeurs, faire comprendre un peu la position luthérienne, qui me semble quand même extrêmement compliquée, et qui a été, les anabaptistes, notamment donc un courant des églises radicales, a rapproché à Luther de ce genre de positionnement.
Ils ont rapproché à Luther de faire une demi-réforme. De ne pas aller jusqu'au bout. Pour, je crois que ça vaut la peine peut-être de se préoccuper pas seulement de la théologie, mais de la liturgie, de la manière dont on a célébré.
Oui.
Quand les églises, quand une église, une paroisse catholique devenait luthérienne, en Allemagne, en Alsace, ouais. Surtout dans les pays scandinaves, au fond, on touchait aussi peu de choses que possible. On maintenait le plus de choses possibles. C'est pour ça, dans les églises luthériennes, vous avez des tableaux, vous avez des crucifixes,
oui,
vous avez des...
Oui.
Et on changeait la prédication. Et c'est ça que les anabaptistes disent. Ils disent à Luther, tu crois que quand tu as changé la prédication, tu as tout changé. C'est pas vrai. Si tout le reste reste le même, ta prédication, elle perd de son éclat.
Parce que pourquoi Luther pensait qu'on pouvait essayer de se concilier l'Église catholique ?
Non, parce que Luther... D'abord, Luther est catholique. Hein. Il a rompu avec Rome, mais a-t-il eu conscience de rompre avec le catholicisme ? C'est pas si sûr que ça. Et il est, dans le fond, assez conservateur.
Oui.
Et puis, Luther a mené une partie importante de sa vie dans un couvent, où le moment de l'Eucharistie est un moment fort. Il y a donc une sorte d'attachement au sacrement qui est très, très fort. Chez lui.
Donc finalement, ce qui change, c'est la prédication avec la grâce
en
premier,
c'est la prédication.
Par rapport aux œuvres.
Il le dit, il écrit à un prêtre devenu pasteur luthérien et qui dit « Mais l'échevin, enfin le maire de ma commune, me demande de faire des processions.
Oui.
Qu'est-ce que je fais ?» Et Luther dit, bah, allez-y.
Si ça fait pas de mal, ça fait pas de mal.
Veillez simplement qu'on ne dise pas que c'est nécessaire au salut.
Oui.
Et puis après ça, ben, si on vous demande de mettre une robe, vous pouvez en mettre deux. Peu importe. Le luthéranisme, c'est vraiment la prédication qui change. Zwingli, au contraire, a eu beaucoup plus le sentiment qu'il fallait changer les manières de célébrer. Et alors là, c'est très significatif. Quand une église catholique devient un temple dans le canton de Zurich, on enlève l'autel immédiatement.
Oui, et on enlève aussi les tableaux, les crucifix.
Ah oui, tout ça, les tableaux, les crucifix.
Ouais.
Et je dis immédiatement, on le fait pédagogiquement.
Oui.
Quelquefois sur 2 ou 3 ans,
oui.
Pour amener les gens à le comprendre.
Oui.
Et à la place de l'autel, on met une table en général octogonale, pour qu'elle n'évoque pas un autel. C'est pas un autel, c'est une table octogonale.
Ouais.
On la met non pas dans le cœur, mais au milieu de l'assemblée, en général là où se rencontrent deux allées, l'allée longitudinale et l'allée, pour bien montrer que c'est le peuple qui célèbre, qui prend la scène, c'est pas le prêtre qui la célèbre.
Qui la donne.
C'est le prêtre. Et... Bon, changement tout à fait significatif. On prend la scène, non pas dans des vases, assiettes ou coupes spéciales, mais dans les vases et les coupes quotidiennes, en bois ou en terre cuite.
Mais là, on retrouve ce dont vous parliez la dernière fois, la troisième signification de la scène.
D'autant plus qu'on prend du pain, pas l'hostie, pas l'hostie qui n'a pas beaucoup de goût,
oui,
qui est insipide. On prend du pain.
Du pain
de boulanger,
oui, oui,
du pain qui a du goût. On prend le vin de tous les jours. Et tout est fait pour rappeler le repas quotidien. Pas un sacrifice, pas une cérémonie spéciale. Au fond, pour rappeler que le Christ est présent dans tous nos repas. Pas dans un repas extraordinaire. Alors il y a cette volonté très forte, et à cela s'ajoute que dans bien des endroits, aux Pays-Bas par exemple, les gens viennent s'asseoir autour de la table. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des temples aux Pays-Bas où les gens viennent prendre place par tablés successifs, assis, comme ils le sont à la maison pour manger.
Alors, on va voir.
Alors, c'est une seconde. Il y a rupture. Il y a une troisième rupture qui est aussi significative, qui est que on prend la scène pas tous les dimanches.
Oui.
On la prend 4 fois par an. Et alors, l'idée est la suivante. Au fond, la scène est là pour rappeler l'anniversaire de la mort du Christ. Comme dans la famille, vous avez des repas de fête pour l'anniversaire d'un enfant ou d'un parent. Si vous faites un repas d'anniversaire, vous faites un repas toutes les semaines.
Ça n'a plus de sens.
Si parce que votre fils est né un lundi, tous les lundis, ça perd son sens.
Ah oui, complètement.
Ça devient une banalité. Si vous le faites rarement, ça permet de faire l'effort de rassembler la communauté,
la famille, oui,
et d'en faire un jour de fête.
Alors on va voir après la dernière partie sur la théorie de Zwingli, mais je voudrais qu'on fasse une pause pour une pause musicale. Donc vous nous avez choisi Pavane de Fauré. Alors nous écoutons ce morceau et on se retrouve ensuite. Alors maintenant, on continue sur Zwingli. Et donc, il y a la disposition des lieux, il y a le rôle du pasteur et des fidèles. Ce n'est plus le pasteur qui distribue la communion, mais c'est les fidèles qui participent au repas. Le repas communautaire avec la vie ordinaire, les assiettes de tous les jours, 4 fois par an, donc pour éviter de diluer la chose.
Alors, il y a des gestes significatifs qui s'ajoutent. Par exemple, le fait de passer le pain et la coupe de main en main.
Oui.
C'est pas le prêtre qui le donne, on se le passe les uns aux autres. Ça a aussi cette signification de quelque chose que l'on fait ensemble.
Et puis, il y a le rôle prépondérant de la prédication.
Voilà. Et dans les changements architecturaux, au centre du cœur, il y a la chaire, souvent surélevée, et la table de communion, octogonale ou plus octogonale, en France elle n'a jamais été octogonale, en dessous. Et ça relève d'un thème qu'on trouve très fortement chez Calvin, la scène accessoire,
oui.
La scène subordonnée, la scène surajoutée à la prédication. Dans les cultes réformés classiques, on ne célèbre jamais la scène s'il n'y a pas eu une prédication avant. Il y a quelques textes, par exemple la Confession écossaise à la fin du XVIe, qui disent au fond la valeur de la scène tient à la valeur de la prédication. Si la prédication ne vaut rien, la scène ne vaut pas grand-chose.
Oui. Mais alors pourquoi Zwingli l'a maintenu comme sacrement?
Alors, il y a l'insistance communautaire très forte de Zwingli. J'ai le Christ, ça c'est individuel, par la foi, c'est la foi individuelle, c'est dans mon cœur, c'est dans mon esprit, c'est dans ma vie, mais je ne peux pas la garder individuellement, il faut que j'en témoigne.
Ouais.
Et quand je me lève pour aller prendre la scène, je dis à tous, voilà, cet évangile que j'ai entendu, j'y adhère, je le fais mien, j'y crois.
C'est le symbole d'une confession de foi.
C'est une confession de foi. Je le dis aux autres.
Ouais.
Je prends la scène pour les autres, plus que pour moi. Si j'étais tout seul dans une île déserte, comme Robinson, j'aurais pas besoin du sacrement.
Ah voilà, ça c'est intéressant cette idée de dire que si on est tout seul, on en a pas besoin. C'est en fait la valeur du témoignage.
Et Calvin d'ailleurs à plusieurs reprises dit que ça vaudrait mieux qu'on n'en ait pas besoin.
Ouais.
Mais on en a besoin. Alors ça, c'est la première raison. Il y a une seconde raison, et là apparaît la différence entre Zwingli et Calvin. Calvin insiste beaucoup plus sur la faiblesse de l'homme, la faiblesse de l'homme de foi. Combien il a besoin d'être conforté, d'être réconforté.
Oui, parce que Calvin, donc, revient un petit peu, enfin, revient
alors,
légèrement sur la position de Luther.
Je crois qu'il revient, Calvin est... au départ, est marqué par la position de Luther.
Oui.
C'est la position de Luther qu'il connaît et qu'il adopte. Et dans son petit traité de la Sainte-Seine, qui date de 1536, 37, 38, quelque chose comme ça, il dit qu'il n'a pas lu Zwingli. Il ne connaît pas les textes.
Il ne connaît pas Zwingli.
Il ne le connaît pas réputation.
Oui. Ben, Zwingli est déjà mort.
Oui. Mais il ne connaît pas sa pensée.
Ouais.
Il n'a pas lu ses écrits.
Il
n'a
pas lu.
Et l'influence de Zwingli se fait sentir par l'intermédiaire de Farel,
ouais.
Qui a beaucoup influencé Calvin à partir de l'arrivée de Calvin.
Donc Guillaume
à Genève,
Farel, qui est un réformateur
français, oui,
ouais.
Qui passe du cercle de Zwingli au cercle de Calvin après la mort de Zwingli. Et puis c'est l'influence aussi du successeur de Zwingli, Bullinger, à Zurich, avec lequel Calvin signe un accord, le Consensus Tigurinus, précisément sur la scène, et qui marquera alors fortement la rupture avec les luthériens. Fortement. Et autrement dit, Calvin vient plutôt d'une position luthérienne et évolue vers une position...
Vers une position de Zwingli.
Alors, pour Calvin, c'est pas pour faire court. Le Christ, pour Luther, est présent dans et sous les apparences du pain et du vin.
Oui, ça c'est Luther.
Ça c'est Luther.
Oui.
Pour Zwingli, le Christ est présent avant. Il est présent en moi avant que je prenne la scène. Et je manifeste
en prenant la scène.
La scène, quelque chose qui s'est passé avant.
Oui.
Pour Calvin, c'est avec. Au moment où je reçois le pain et le vin, Dieu, par son Saint-Esprit, se fait sentir à moi.
C'est quand même très compliqué, tout ça, ces positions.
Les textes du XVIe siècle, les controverses du XVIe siècle sur la scène sont d'une subtilité. Il y a des moments où je crois que les plus érudits s'y perdent. Donc ça devient compliqué comme tout. Pour ce qui devrait être un geste, finalement, c'est simple. Hein.
Oui, je comprends pourquoi vous avez intitulé communion ou division, parce que effectivement,
la division.
Oui, oui, c'est.
Et je comprends tout à fait la critique de l'armée du salut. Ils auraient mieux fait de s'occuper des gens que de s'occuper du sacrement.
Ça a été une critique de l'armée du salut.
De dire à mes étudiants, écoutez, profanez le sacrement si vous voulez, mais profanez pas les gens.
Oui, 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 oui. Alors, si on récapitule pour tout le monde. Sauf pour Zwingli, il y a quand même un geste un peu magique là-dedans.
Absolument.
Ouais.
Surnaturel, en tout cas, disons. Hein.
Ouais.
Surnaturel, oui.
Mais ce que je ne comprends pas bien, c'est la position de Calvin, parce que la position de Luther, on a compris, c'est la position catholique, bon, même si c'est un petit peu plus nuancé.
Oui, c'est mitigé, il y a quand même des différences sensibles. D'ailleurs... En principe, certaines églises luthériennes, pas toutes, ont du point de vue catholique la succession apostolique.
Hein. Oui, oui.
En particulier Suède, Norvège.
Mais sur la scène, finalement, c'est quand même... Et ça se retrouve dans les églises issues de la Réforme. On a ces positionnements différents sur la...
Alors, on a ces positionnements différents, mais quand même une grande différence... qui se développe au XIXe et puis qui se concrétise au XXe siècle, en particulier par la Concorde de Leuenberg, qui date de 70, c'est pas très ancien, c'est 50 ans.
Oui.
Entre Église luthérienne et réformée, en disant on peut avoir des compréhensions différentes de la scène, mais ça ne doit pas nous empêcher d'être en communion, les uns avec les autres. En principe, les luthériens n'admettaient pas les réformés à leur table de communion.
Ben, on va voir ça, on va détailler ça après une seconde pause musicale. Donc je vous propose, toujours comme la dernière fois, Les chœurs mélanésiens, The Thin Red Line, le film de Terrence Malick. Et on se retrouve après cette pause musicale. On va maintenant donc essayer de comprendre la position des églises donc issues de la Réforme sur le sacrement de la scène. On reprend donc par les luthériens, luthériens réformés. On arrive à s'entendre maintenant, surtout maintenant avec les PUDF. Comment ça se passe?
Il y a un immense processus de rapprochement qui s'amorce au XIXe siècle. Oh, on pourrait presque dire qu'il s'amorce avec la révocation des édits de Nantes. Parce que la venue de réformés en terre luthérienne a créé des contacts, des échanges beaucoup.
Donc on peut remercier Louis XIV d'avoir réglé en quelque sorte.
Il m'est arrivé de dire au président de la Fédération protestante de France qu'il devrait y avoir une statue de Louis XIV sur son bureau, parce que c'est ce qui a permis le protestantisme de se forger.
Oui, bien sûr, contre l'ennemi qui l'attaquait.
La violence de l'Église catholique a fait qu'ils se sont sentis beaucoup plus frères qu'ils se sentaient naturellement, et qu'ils ont appris à se connaître.
Oui.
Alors, le processus a lieu pendant tout le cours du XIXe siècle, et au XXe siècle, il s'est fortement accentué. Au XIXe siècle, on voit déjà apparaître en Allemagne ce qu'on appelle les églises unies, par exemple en Prusse, qui sont des églises à la fois luthériennes et réformées, qui ont les deux, où luthériens et réformés se retrouvent ensemble, avec parfois quelques conditions, que dans telle paroisse soit bien un pasteur luthérien, dans telle paroisse soit bien un pasteur réformé. Mais on fait partie de la même église, et on s'admet mutuellement ce qu'on ne fait pas encore au XVIIIe. Au XVIIIe, les réformés s'y accueillent, les luthériens, à leur scène, mais les luthériens n'accueillent pas tous, parce qu'il y en a qui le font, n'accueillent pas tous les réformés. Et puis à partir du XIXe siècle, en particulier sous l'influence du théologien Schleiermacher et du roi de Prusse, dont je ne me souviens plus le nom, il y a un rapprochement qui s'opère. Il s'opère tout le long du 19e.
Mais qui est-ce qui abandonne un peu, qui abandonne une partie de ses positions ?
Alors l'intérêt, c'est que il y a des évolutions chez les luthériens comme chez les réformés. L'évolution, c'est chez les luthériens peut-être moins une insistance sur la consubstantiation, ou plus de, on dira que c'est un mystère qu'il ne faut pas chercher à trop expliquer. Et chez les réformés, peut-être une prise en compte plus forte de la ritualité.
De la nécessité du rituel.
Mais c'est pas tellement d'avoir une formule unique, mais d'avoir au fond un consensus dans la différence.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, il y a des différences, mais ces différences ne doivent pas nous séparer.
Ouais.
Pas plus que les différences entre les disciples de Matthieu et les disciples de Jean dans l'Évangile entraînent des coupures entre les deux groupes. Consensus différencié, voilà. Et c'est ce qui, me semble-t-il, domine actuellement dans les relations entre protestants et catholiques, sans compter que dans le monde contemporain, la question des sacrements devient de moins en moins, prégnante, elle devient de moins en moins actuelle, elle ne passionne pas beaucoup les gens.
Est-ce que les gens d'ailleurs savent qu'il y a deux sacrements, est-ce que ça les intéresse ?
Pas forcément, mais on a souvent des réflexes.
Ouais.
Des catholiques scandalisés, par exemple, par le fait qu'après un service de Sainte-Cène, nous jetons le pain et le vin qui reste.
Il ne faut pas jeter le pain, mais on peut le donner aux poules,
Oui, mais il n'y a pas de poules dans les villes. par une sorte de très grande difficulté, même quand ils sont invités, pour les protestants, à aller prendre la scène.
Oui.
Il reste un certain nombre de sensibilités différentes. Mais personne ne trouve que c'est des raisons majeures. Le célibat des prêtres apparaît beaucoup plus comme un facteur de division. Le rôle, la personnalité du pape, beaucoup plus.
Oui.
Et probablement Marie aussi. La piété mariale apparaît beaucoup plus comme un ferment de division. Le sacrement lui-même.
Donc
les
querelles.
Je me souviens le nombre de fois où, étant avec un ami prêtre à la célébration, il me dit viens communier, moi j'aime pas, je préfère ne pas y aller. Et je lui dis, mais je suis en complet désaccord avec tel ou tel texte émanant de Rome.
Oui.
Il dit, qu'est-ce que ça fait ?
Oui.
Il n'y a pas le même.
C'est-à-dire qu'un catholique peut y voir un geste communautaire simple.
Voilà, oui. Mm. Oui.
Et donc. bon, dans un temple maintenant avec les PUDF, que pensent les luthériens? Est-ce que, enfin bon, c'est de chacun sa signification, chacun y voit ce qu'il veut, voilà. Ou alors il y a
les liturgies souvent en usage dans les cultes luthériens comme réformés, c'est de dire au fond, quelles que soient vos convictions, quelle que soit votre manière de comprendre la présence du Christ, si vous vous sentez invité, venez. Vous êtes libre. C'est pas nous,
oui,
qui régentons la table.
Ouais.
C'est le Christ lui-même. Et il vous accueille. Allez-y. Alors, c'est une position qui est beaucoup plus facile pour un protestant que pour un catholique.
Oui.
N'est-ce pas? Si vous prenez l'hostie consacrée, pour un catholique, vous prenez le corps du Christ.
Oui, oui, oui.
Pour un protestant, ben, si le Saint-Esprit n'agit pas, vous prenez un peu de pain, un peu de vin.
Oui, oui.
Et puis, voilà.
Quel que soit luthérien ou oui. réformé. Ou... Et dans les églises radicales, dans les églises plus évangéliques?
Alors, je ne sais pas très bien ce qui se passe, mais très souvent, il y a de tout c'est un éventail fantastique, les églises dites évangéliques. Il y en a plusieurs qui ne célèbrent pas ou qui célèbrent peu. Le sacrement.
Et donc il n'y a pas forcément la reprise des deux sacrements dans certains courants radicaux.
Alors le baptême est fortement contesté. Le
oui.
baptême en tant que baptême d'enfant.
Oui, oui, le baptême d'enfant.
En tant que baptême
oui.
d'adulte, est-il jugé nécessaire quelquefois dans certaines de ces églises, pas dans toutes. Et la scène... souvent, ce qui tient lieu de scène, et moi je trouve que ce serait pas mal de travailler dans cette direction, c'est un repas paroissial, c'est un... dans ma paroisse, suite à d'ailleurs des conférences que j'avais données, on avait essayé au moment de Pâques de faire un repas paroissial, et au cours du repas, le pasteur lisait un certain nombre de textes liturgiques, et de célébrer la scène de cette manière-là, et non pas comme un rite,
oui.
comme ce rite qu'on fait à la fin de certains cultes, où on se réunit, on se met en rond, et où on a quelque chose de très ritualisé, et qui est souvent dépourvu de sens, en tout cas pour les gens de l'extérieur. Et je me souviens un ami qui n'est pas chrétien, qui est agnostique, venu à un culte qui l'avait beaucoup intéressé. Il avait trouvé la prédication fort intéressante, la Sainte-Seine, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fabrique? C'est absurde, cette histoire-là.
Mais on reproche parfois, et peut-être souvent, aux protestants, notamment réformés, d'être trop intellectualisés. Est-ce que le fait d'abandonner des rites, est-ce que ça ne contribuerait pas encore plus à séparer, en quelque sorte, les protestants des autres qui... ont plus besoin du rite, qui ont plus besoin de... Est-ce qu'on ne peut pas voir le rite comme des béquilles
Ah oui, l'expression est de Calvin, on peut tout à fait voir les rites comme des béquilles, en étant conscience de tous les dangers qu'entraîne le rite. Mais le protestantisme intellectualisé, c'est vrai, c'est pas vrai. Hein. Moi, je ne trouve pas tellement intellectuel que ça, le protestantisme. Et il me semble que quand, dans le grand commandement, Jésus dit « Aimer le Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée », il ne faut pas négliger la pensée, il ne faut pas négliger l'intellect. Et c'est d'autant plus fort que « Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force », c'est un texte de l'Ancien Testament. Et
ouais.
C'est Jésus qui ajoute de toute sa pensée.
Oui.
Alors, un spécialiste me dira que chez les Hébreux, le cœur comprend la pensée. Mais enfin, il a ajouté de sa pensée. Et ça, c'est très grec, enfin, c'est très...
Oui, oui, c'est le besoin de rationalité et de...
Je trouve qu'il y a eu, dans le protestantisme, une volonté d'instruire, d'éduquer, de développer une foi réfléchie,
oui.
et pas seulement instinctive, ce qui ne veut pas dire une foi pas fervente, ce qui ne veut pas dire une foi non active, mais qui est importante, que cette dimension est importante.
Oui, il n'est pas dit, effectivement, il n'y a pas la mention du rite, il n'y a pas, dans les commandements de Jésus, il n'y a pas, il faut suivre tel rite, au contraire, il s'élève contre le sabbat, enfin le respect du sabbat dans certains cas.
Et souvent, on s'interrogeait sur les paroles de qui prononcent le jeudi saint, « Faites ceci en mémoire de moi », en disant, mais au fond, est-ce que Jésus voulait vraiment créer un rite? C'est tout à fait contestable. Il est possible qu'il pensait beaucoup plus à une fin du monde imminente et que la structuration de la communauté, ça, c'était pas dans ses préoccupations.
Eh bien, c'est là-dessus que nous nous séparons. Je remercie nos auditeurs, je remercie André Gounel de nous avoir donné ces éléments de réflexion et nous nous retrouverons la prochaine fois pour un autre thème et anathème. Et je répète qu'on peut envoyer ses réactions à un protestant peut en cacher un autre @radiofmplus.org, même pour les autres émissions. Merci et au revoir.
Thème et anathème, une émission proposée par Yolande Gounel.